présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 2 ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, plusieurs dizaines de dirigeants réunis en ce moment à Boulogne-Billancourt pour donner un coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Précision de Véronique Rebérotte dans cette édition. Un scrutin sénatorial aujourd'hui en Alabama aux enjeux nationaux. Roy Moore, républicain conservateur soutenu par Donald Trump, tente de conserver son siège en dépit d'accusations d'agression sexuelle. Correspondance à New York avec Grégory Phillips. Après l'annonce faite hier d'autoriser les salles de cinéma en Arabie Saoudite, un fonds souverain saoudien signe un accord avec le plus gros exploitant de salles de cinéma américain, c'est Valérie Crova qui nous en parlera. Et puis en France, l'Assemblée lance tout à l'heure les débats sur les nouvelles règles d'accès à l'université. C'est un dossier suivi pour nous par Hakim Kasmi. Le trafic actuellement interrompu sur la ligne A du RER, au moins jusqu'à 16h, très perturbé sur la ligne B, en raison d'une grève des conducteurs qui dénoncent un management agressif. Explication de Catherine Pétillon. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
La sociologue Nathalie Hennig, spécialiste des valeurs, nous rejoindra pour évoquer une question remise au goût du jour par les suites de l'affaire Weinstein et ses répliques. Peut-on séparer l'homme de l'œuvre ? C'est une question qui traverse le temps et les époques, mais qui n'est peut-être pas si facilement déconnectable du moment que nous vivons.
Voilà donc un nouveau sommet pour le climat. Cette fois, il s'agit de dégager des financements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a une 60aine de chefs d'État, de gouvernement qui sont réunis donc en ce moment à Boulogne-Billancourt près de Paris pour participer à cette rencontre co-organisée par la Banque mondiale, les Nations Unies et la France et baptisée One Planet Summit. 2 ans, jour pour jour après l'adoption de l'accord de Paris. Il s'agit de rassembler des acteurs, des entreprises privées. Pour Emmanuel Macron, c'est aussi la responsabilité des financeurs, des entrepreneurs, mais encore des universités, de toutes celles et ceux qui ont une part à l'action collective d'agir. Interview ce matin au Monde du chef de l'État, dans laquelle il affirme que la mobilisation doit être beaucoup plus forte. Véronique Rebérotte, vous êtes sur place à ce sommet. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe alors? Parce que c'est une rencontre quand même assez hors norme, où on voit à la fois des chefs de l'État, des ONG, mais aussi des gens de la société civile, des entreprises.
Bah écoutez, ce sommet est tel, en tout cas, qu'Emmanuel Macron l'a imaginé, de l'action, du concret. C'est un sommet à l'allure d'une ruche, effectivement, où les milliards, on peut le dire, tombent comme à gravelotte. Cette EDF qui annonce d'abord un vaste plan solaire sur 15 ans, entre 2020 et 2035, 25 milliards d'euros investis dans le photovoltaïque. C'est 4 fois plus que les capacités actuelles de production d'énergie solaire en France. C'est l'équivalent aussi de la moitié de notre production nucléaire. C'est énorme. C'est une annonce pour l'instant. L'autre annonce du matin, c'est l'assureur AXA, qui fait savoir qu'il va retirer en grande partie, en tout cas, se retirer des investissements charbon, moins 2,4 milliards d'euros, un retrait en tout cas du charbon le plus polluant, le plus sale, notamment les sables bitumineux. En fait, ici, l'avenir n'est nettement pas à mettre son argent dans le fossile. L'énergie renouvelable eh bien, est rentable. Il ne faut absolument pas rater le virage. Alors même les milliardaires s'y mettent. Bill Gates, Richard Branson, Michael Bloomberg sont là. Pour l'ex-maire de New York, la finance verte, seule d'ailleurs la finance verte, sauvera la planète.
Le changement climatique est bien réel, c'est sérieux. Et on le voit avec les ouragans, les feux, les sécheresses, les inondations. Et on peut agir. Je suis très content de le faire. Je le fais pour mes enfants, mes petits-enfants et pour le plaisir. La philanthropie, c'est très égoïste. Tu te regardes dans le miroir et ça te renvoie une bonne image de toi. Le climat est l'un des grands défis du monde.
Voilà, pas de long discours. En tout cas, ce sommet, Emmanuel Macron, il fera une courte déclaration cet après-midi. Les ONG, elles devront faire le tri entre les annonces qui sont ce qu'on appelle du greenwashing, des coups de communication, du recyclage de vieilles annonces, et puis celles nouvelles, réellement, qui seront réellement appliquées dans le futur et efficaces.
Véronique Rebérotte, merci beaucoup. À vos côtés se trouve Pierre Ducret, qui est conseiller climat du groupe Caisse des dépôts, président du think tank Institut économie du climat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Finalement, quel intérêt a une banque d'investir dans le climat ? Comment concilier, autrement dit, les intérêts qui sont quand même à très court terme de la finance avec le très long terme de l'écologie ?
Oh, d'abord, le très long terme de l'écologie. Vous savez, la question du climat n'est pas à si long terme que ça. Il y a une véritable urgence, il faut aller vite. C'est dans les 10 années qui viennent qu'il faut arrêter de faire de l'électricité avec du charbon. C'est à l'horizon simplement de la moitié du siècle qu'il faut être à net zéro en termes d'émissions. Donc tout ça, ça se rapproche. Les horizons se rapprochent. Sur les raisons pour lesquelles la finance rentre dans le jeu, je pense que c'est profondément la conscience des risques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se réjouir, parce que c'est pas par bon sentiment, c'est parce que tout simplement le monde financier qui considérait qu'il n'avait pas grand chose à faire là-dedans parce que c'était la question de l'économie réelle en gros et qu'il fallait changer l'économie réelle et que donc on pourrait faire de la finance verte, le monde de la finance a compris qu'il avait un risque qui lui était propre, c'est-à-dire un risque tout simplement de retournement complet des valeurs. Et tous les signaux politiques qui sont envoyés dans le monde en ce moment montrent que ce retournement pourrait aller beaucoup plus vite.
Retournement des valeurs politiques, c'est-à-dire retournement des valeurs financières, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr, des valeurs financières, c'est-à-dire que concrètement, si finalement on va bien laisser dans le sol une grande partie des réserves d'énergie fossile, ça veut dire que il faudra en tirer les conséquences sur l'évaluation d'une partie de la capitalisation boursière des groupes concernés. Vous voyez que tout ceci ne va pas se faire brutalement, quoi qu'il peut y avoir des mouvements quand même très rapides, mais qu'en tout cas ça doit s'anticiper. Et donc c'est au nom de ses propres risques que le monde financier maintenant se met à agir dans la façon de gérer ses portefeuilles, d'allouer les capitaux dans l'économie, dans l'économie mondiale.
Oui, il y a quand même un problème, c'est qu'il va falloir continuer de produire, si je puis dire, à la fois aussi des bénéfices, des financements, etc., pour la finance, qui demande toujours de plus en plus de gains, finalement. Comment vous allez concevoir, comment vous allez articuler ces deux, puisque ça coûtera forcément plus cher de s'occuper du climat?
Non, justement, ça coûte pas tellement plus cher de s'occuper du climat. En termes de volume financier, en fait, il s'agit avant tout de faire basculer des flux d'un sens vers un autre. Il y a maintenant des investissements verts qui sont extrêmement rentables, notamment dans les énergies renouvelables qui sont compétitives, même contre le charbon et sans subvention dans une grande partie du monde. Et à partir du moment où on s'occupe de ça sérieusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de modèles économiques qui peuvent être financés avec un profit raisonnable. Et dès lors que les signaux politiques sont envoyés, si vous voulez, il y a un effet, comment dire, en boucle, et on va voir de plus en plus les modèles apparaître. Je voudrais vous mentionner un point très important qui a été annoncé ce matin. C'est une coalition des plus grands investisseurs du monde, américains, californiens notamment, européens, et qui s'engage à s'engager en quelque sorte, mais à s'engager au sens actionnarial du terme, auprès des 100 entreprises les plus émettrices du monde. Et tenez-vous bien, ces 100 entreprises représentent 75% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, quand on tient compte de leurs émissions indirectes, etc. Et ce que disent ces investisseurs, c'est « maintenant, on va vous suivre très attentivement pour mesurer dans quelle mesure vous allez adapter vos trajectoires industrielles, parce que tout ça ne va pas se faire instantanément, bien sûr, dans quelle mesure vous allez adapter vos trajectoires industrielles à l'objectif de 2 degrés. Et en quelque sorte, le message, c'est l'accès au capital sera de plus en plus conditionné par cet alignement.
Pierre Ducret, merci beaucoup d'avoir été avec nous donc pour ce sommet, à l'occasion de ce sommet. Merci à Véronique Rebérotte et aussi à Hélène Langlois qui assurait la liaison technique. La finance toujours, mais cette fois côté fraude, avec ce rapport de Tracfin, le service de Bercy qui est dédié à la lutte contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques, le financement du terrorisme. Il souligne la nécessité pour la réglementation de s'adapter à ces nouveaux acteurs du numérique, du secteur financier à l'échelle internationale. Antoine Marek, l'essor du numérique a effectivement favorisé le développement de ces nouveaux acteurs qui rendent beaucoup plus complexe la traçabilité des flux financiers.
Effectivement, en 2015, la mode était aux escroqueries, aux faux ordres de virement ou aux sites de trading non régulés. Désormais, les organisations criminelles se spécialisent dans les placements en diamants d'investissement. Les offres douteuses se multiplient malgré les mises en garde de l'autorité des marchés financiers. Le schéma se décline sur d'autres matières premières, comme les terres rares par exemple. Autre tendance, le développement des fraudes aux certificats d'économie d'énergie ou au prélèvement CEPA, l'espace unique de paiement en euros. Ces fraudes exploite les failles de cette norme européenne. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le volume d'informations traitées est en hausse de 47% sur un an. Tracfin a notamment enquêté sur des récoltes de fonds par le biais de cagnottes en ligne créées pour financer le retour des combattants. Le blanchiment et le financement du terrorisme sont facilités par l'anonymat et la faible traçabilité permis par la révolution technologique à l'œuvre dans les services financiers, en particulier dans les services de paiement et les transferts internationaux de fonds. Parmi ces produits et services innovants, la monnaie électronique à cours légal, mais aussi la monnaie virtuelle sans statut juridique, la plus connue est le bitcoin, mais ça n'est pas la seule. Alors que faire face à ces risques accrus de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme? TRACFIN suggère de s'adapter aux nouveaux acteurs numériques du secteur financier à l'échelle internationale. Si la réglementation évolue en France, l'efficacité des mesures prises à l'échelle nationale reste conditionnée aux initiatives internationales. Même au seul niveau européen, l'efficacité du dispositif est limitée. La réponse doit donc être mondiale.
Antoine Marette, merci. L'enquête sur l'attentat à l'explosif qui a fait 3 blessés hier à New York, son auteur, un homme d'origine du Bangladesh, se serait inspiré de groupes djihadistes pour Donald Trump. En tout cas, cette attaque illustre une nouvelle fois l'urgente nécessité pour le Congrès de voter des réformes législatives, dit-il, pour protéger les Américains. Le président qui a déjà interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays essentiellement musulmans, mais dont le Bangladesh ne fait pas partie. Le scrutin sénatorial qui va se dérouler aujourd'hui en Alabama concentre en fait l'attention de tous les Américains. Roy Moore, c'est un républicain conservateur, un ancien juge soutenu par Donald Trump, tente de conserver un siège en dépit d'accusations d'agression sexuelle. Et si son adversaire l'emportait, la courte majorité des républicains au Sénat serait réduite à une voix. Il n'y aurait plus que 52 voix pour les républicains. Il n'y aurait plus que 51 voix, pardon, au lieu de 52. Le reportage sur place à New York de Gregory Phillips.
Cette fois, Roy Moore n'est pas arrivé à cheval à son meeting ni avec un revolver à la main, comme il l'a déjà fait, mais dans un costume sombre. Steve Bannon, l'ex-éminence grise de Trump, a fait le déplacement pour le soutenir. Il faut dire que Roy Moore est le héros de l'Amérique ultra-conservatrice, ancien magistrat, anti-avortement, anti-homosexualité, convaincu que les attaques du 11 septembre 2001 à New York étaient une punition divine. Pour ce dernier meeting de campagne, Moore balaye les accusations qui le visent depuis un mois. Le Washington Post, explique-t-il, a publié cet article dégoûtant, disant que j'ai fait des choses, mais ces femmes, depuis 40 ans, n'avaient jamais pris la parole publiquement, et là, 30 jours avant l'élection, elles se présentent et témoignent sur les plateaux de télévision. Malgré le scandale, Donald Trump a fini par soutenir ouvertement le juge Moore en enregistrant hier ce message téléphonique adressé aux électeurs. J'ai besoin que l'Alabama vote Roy Moore, dit le président. C'est très important. On a besoin de ce siège au Sénat. On a besoin des électeurs de Roy. Si le parti républicain perdait cet état d'Alabama, qui d'habitude lui est toujours acquis, la majorité républicaine au Sénat tomberait à 51 sièges contre 49 pour les démocrates.
Grégory Phillips, après l'annonce faite hier d'autoriser les salles de cinéma en Arabie Saoudite, eh bien, il y a un fonds souverain qui signe un accord, un fonds souverain saoudien qui signe un accord avec le plus gros exploitant de salles de cinéma américain. Le marché cinématographique saoudien pourrait peser, dit-on, 1 milliard de dollars par an, selon ce même fonds, et les premières salles devraient ouvrir donc en mars prochain, pour attendre un petit peu encore, décision conforme en tout cas à la promesse du jeune prince héritier de ramener l'Arabie saoudite à un islam plus ouvert, plus modéré. Valérie Crova.
Une nouvelle avancée, certes, après l'autorisation faite aux femmes de conduire et d'aller dans les stades pour suivre des événements sportifs. Il est vrai que l'on part de très loin dans un pays où l'islam reste très rigoriste, où les femmes doivent porter le voile intégral et doivent demander l'assentiment d'un tuteur pour voyager ou faire des études. L'ouverture de salles de cinéma dès le printemps prochain répond donc à une volonté affichée de transformation sociale, mais il existe encore des freins importants, comme dans la majorité des espaces publics. Les salles de cinéma seront séparées, il y aura des sections réservées aux femmes et aux hommes. Par ailleurs, les films qui seront diffusés devront passer par un comité de censure qui veillera à ce que leur contenu soit en adéquation avec les valeurs et les lois en vigueur. Les autorités saoudiennes, emmenées par le jeune prince héritier MBS, sont allées outre l'avis du moufti d'Arabie Saoudite. En janvier dernier, la plus haute autorité religieuse du royaume avait mis en garde contre la possible ouverture de cinéma cinéma, source selon lui de dépravation. Les milieux religieux radicaux ont joué un rôle de premier plan dans le bannissement du 7e art dans les années 80. Or, aujourd'hui, à l'ère de YouTube, les cinéastes saoudiens estiment qu'interdire les salles obscures n'a pas de sens. Ils utilisent d'ailleurs Internet pour contourner les canaux de distribution classiques. Un film saoudien, Baraka meets Baraka, a d'ailleurs été sélectionné pour les Oscars. Il s'agit d'une comédie romantique qui a déjà été présentée au Festival du film de Berlin.
Une heure moins le quart, la politique française avec l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains qui ravive les divisions internes. Le patron de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, annonce ainsi qu'il quitte le parti. Il déclare ne plus reconnaître sa famille politique. Laurent Wauquiez affirme qu'il ne regarde pas, lui, dans le rétroviseur, mais vers l'avenir. Hier matin, c'était Jean-Pierre Raffarin, l'une des voix de la frange dite modérée des LR, qui déclarait qu'il mettait Laurent Wauquiez en observation. Bonjour Ludovic Piétenu.
Oui, bonjour Antoine.
Donc le cap est mis à droite, on l'a bien compris, par Laurent Wauquiez. Quelle proportion du parti pourrait ainsi ne pas suivre le mouvement?
Il est bien difficile de le déterminer dès à présent. Il va falloir attendre quelques jours, sans doute deux semaines tout au plus, pour mesurer les conséquences de cette élection. Est-ce qu'il faudra parler de quelques gouttes de sang ou d'une véritable hémorragie? Pour l'heure, seul Xavier Bertrand, vous l'avez dit, et puis dans la même région des Hauts-de-France, le maire de Roubaix, Guillaume Delbarre, seuls ces deux-là ont claqué la porte du parti dans les heures qui ont suivi l'élection de Laurent Wauquiez, qui, rappelons-le, a gagné avec près de 75% des voix, une participation de 100 000 militants, donc soutenue par 75 000 encartés, ce n'est pas rien. Il n'y a qu'à jeter un œil aux réseaux sociaux pour constater que les militants LR ne sont pas en train de pleurer ces deux partants. Car ce n'est jamais que la fin d'un processus de clarification qui est à l'œuvre depuis déjà plusieurs mois. Ceux qui voulaient partir sont quasiment déjà tous partis. Rappelons ceux qui l'ont fait pendant la campagne présidentielle de François Fillon, puis dans l'entre-deux-tours, faisant le choix clair d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, puis après cette élection présidentielle et la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, puis de Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Lemoyne au gouvernement, du départ de ceux qui se sont ensuite appelés les constructifs et aujourd'hui Agir, Frédéric Lefebvre, Franck Riester, Thierry Solaire, Laure de la Rodière, pour ne citer qu'eux. Laurent Wauquiez peut faire confiance à sa base et à son groupe parlementaire qui le suit et devant lequel il a pris soin de s'adresser très vite dès ce midi à l'Assemblée nationale en disant bien qu'il n'était pas acceptable de quitter le mouvement. Il rencontre tout à l'heure Florence Portelli, deuxième de cette élection avec 16% des voix. C'est là qu'il devra faire des débuts de preuve de ce qu'il a promis pendant sa campagne, faire œuvre de rassemblement pour ne pas que la famille se disloque. Et puis on peut aussi parler de cette nomination qui devrait arriver très bientôt, demain dit-on, la nomination de l'adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, l'entrepreneur Virginie Calmels, comme numéro 2 des Républicains. C'est tout à fait de nature, dit-on, dans le parti, à rassurer ceux qui ne souhaitent pas quitter les Républicains, mais qui affirment tout de même avoir placé Laurent Wauquiez sous observation.
Voilà, nous voilà rassurés. Merci beaucoup Ludovic Piétenu, Serge Toubiana, merci d'être resté dans ce journal aussi. On va peut-être mettre à profit vos compétences de critique de cinéma, peut-être pour essayer d'associer comédie et politique. Mmh, oui. Je vais vous poser quelques questions sur les personnages qui animent l'actualité du jour. Laurent Wauquiez, bon comédien, mauvais comédien?
Je dirais observation, comme vous l'avez dit juste à l'instant. Pas d'image pour moi, pas de... Je vois pas le profil, je vois pas... J'ai à peine vu son apparition à la télévision là, après son élection. Je trouve quelque chose un peu débraillé, il y a pas de tenue pour moi. Il faut qu'il travaille son aura, sa présence, sa voix, son look, surtout après Macron, hein.
Oui, justement Macron.
Macron alors, a périmé beaucoup le d'hommes politiques enfin, qui sont apparus datés de l'ancien temps, du 20e siècle si j'ose dire. Pas toujours des mauvais hommes politiques, d'ailleurs ils avaient des convictions, mais tout d'un coup il y a un vent de modernité qui souffle et on voit bien que certains auront du mal à exister, à créer leur propre présence, quoi. Présence à l'image, présence devant le...
Dernier personnage qui semble alors là quelqu'un qui crèverait à l'écran, Donald Trump, qu'est-ce que vous en dites?
C'est faux l'amour, quoi, c'est-à-dire qu'on est pas loin du pire, dans ce que Kubrick avait montré dans ce magnifique film, avec Peter Sellers, Docteur Follamour. C'est-à-dire qu'on est dans l'extrême absolu, on ne contrôle plus rien, on n'est pas sûr que lui-même se contrôle, on frôle le danger à chaque fois. Ah, c'est une figure qu'on a connue dans le cinéma, ça, mais ça peut amener au pire.
C'était quoi. Du cinéma.
Serge Incontrôlable.
Merci beaucoup, on vous retrouve dans un petit instant donc pour la dernière partie de la grande table. L'Assemblée va lancer tout à l'heure le débat sur les nouvelles règles d'accès à l'université. C'est une transformation en profondeur pour le gouvernement. Un projet qui est jugé timoré à droite et accusé à gauche d'instaurer une forme de sélection faute de moyens suffisants pour canaliser donc l'afflux des étudiants. Le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants entre dans l'atmosphère parlementaire, Hakim Kasmi, ça veut dire que la querelle pourrait bien se ranimer une nouvelle fois.
Eh bien écoutez, pas vraiment, si on en croit Gabriel Attal, le rapporteur LREM de ce projet de loi, qui estime qu'il ne faut pas s'attendre à des débats houleux. Car sur plusieurs points, lors des différentes réunions en commission, eh bien, les députés de gauche comme de droite partageaient les mêmes avis, comme par exemple sur le tirage au sort. Pour autant, à droite, on juge ce projet de loi timoré. Du côté des Républicains, on estime même que la révolution annoncée accouchera, je cite, d'une petite souris. Quant aux insoumis, ils dénoncent de leur côté eh bien, la sélection avec le bac qui ne sera plus le seul moyen d'entrer à l'université. De son côté, la communiste Marie-Georges Buffet réclame plus de moyens et notamment il dénonce le fait que l'on veut retirer et empêcher une partie des jeunes d'entrer à l'université avec la mise en place des attendus et des prérequis. En attendant, pour Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'objectif de ce texte est d'une part de réduire l'échec scolaire qui est de 60% en première année de licence, ce qui en fait l'un des plus mauvais taux d'Europe, mais aussi de mettre fin au tirage au sort dans les filières sélectives avec la fin du logiciel APB qui sera remplacé par Parcoursup. Avec ce système, eh bien, les universités pourront choisir elles-mêmes leurs étudiants en fonction de leur profil, en fixant des attendus qui sont publiés d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. Un étudiant qui choisira de faire des sciences, par exemple, eh bien, devra obligatoirement en avoir fait durant son parcours au lycée. Pour éviter la compétition entre les différents établissements, il y aura un cadrage au niveau national, explique Gabriel Attal, le rapporteur. Quant à la contestation, elle n'est pas complètement vaine, puisque les syndicats qui sont contre cette loi, comme l'UNEF et l'UNEL manifeste actuellement devant l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. Hakim Kasmi, on entend également la voix de l'invité de la dernière partie de la grande table, Nathalie Hennick. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue. Bon, je vous pose la question à ce sujet-là parce qu'il y a un conflit de valeurs qui est aussi en jeu dans cette histoire d'entrée à l'université.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est très intéressant de le comprendre à la lumière d'une sociologie des valeurs. Donc là, je ne vais pas parler en tant que chercheur qui analyse, mais en tant que, disons, qu'expert qui met en évidence des problèmes et qui propose des solutions. Et je pense que la revendication des syndicats de refuser toute sélection à l'entrée à l'université est basée sur une double confusion. Une confusion, d'une part, de ce qu'on appelle les arènes ou les domaines d'activité entre le domaine du savoir qui repose sur la valeur de connaissance et le domaine, disons, civique qui repose essentiellement sur la valeur d'égalité des droits, et d'autre part une confusion entre valeurs, entre la valeur d'équité et la valeur d'égalité. La valeur d'égalité est la valeur dominante en matière civique, l'égalité des droits, alors que dans le domaine scolaire, universitaire du savoir, on obtient l'équité, au contraire, par une distribution inégale des récompenses en fonction des mérites et des capacités. Tout le monde trouve normal que deux copies de qualité très différentes n'aient pas la même note. Et en voulant affecter une valeur d'égalité absolue à ce domaine qui est le domaine universitaire, scolaire et le domaine du savoir, je pense que les syndicats se trompent et non seulement ils vont contre le bon sens, mais ils vont contre les intérêts des étudiants qu'ils sont censés défendre, à savoir les étudiants les plus démunis, qui se retrouvent en effet totalement démunis dans une situation où ils n'ont pas les moyens de faire les études conformes à ce qu'ils aimeraient faire. Voilà.
Merci beaucoup Nathalie Hennick. On vous retrouve dans une minute maintenant pour la dernière partie de la grande table où on termine avec les grèves notamment sur la ligne A et B du RER qui, les trafics est très perturbé, il est même arrêté sur la ligne A. Grève des conducteurs, leur syndicat dénonce des tensions chroniques dans leur travail, un management agressif. Catherine Pétillon, c'est un conflit qui est emblématique de d'autres conflits sociaux, de très nombreux conflits sociaux actuellement.
Ils n'arrivent plus à faire autant avec moins, avec pour conséquence une dégradation tant des conditions de travail que des services aux voyageurs. Voilà en résumé ce que disent les quatre syndicats, CGT, UNSA, SUD et FO, qui ont appelé à la grève. Ils mettent en cause les dysfonctionnements dans leur organisation de travail et, vous le disiez, un management agressif. Pour eux, les tensions, ou plutôt les risques psychosociaux, sont la conséquence, je cite, d'une politique du chiffre et notamment des obligations fixées par Île-de-France Mobilité, anciennement STIF, l'autorité qui gère les transports pour la région. En pratique, cela se traduit notamment par un manque de conducteurs pour assurer les services demandés, une pénurie d'effectifs dont les conséquences sont immédiates sur un réseau saturé. Je rappelle que le RER A transporte 1 200 000 voyageurs chaque jour et le RER B environ 875 000. Conséquence, une partie des salariés qui ne peuvent pas prendre leur congé et malgré cela, certains services ne sont pas assurés. Autre point noir, le manque d'investissement sur les rames et le réseau, insistent les syndicats. Tous mettent ici en cause les arbitrages de la direction. La semaine dernière, une tentative de conciliation a échoué. Les syndicats estiment que la direction ne veut rien entendre. En tout cas, pour l'heure, cela ressemble bien à un dialogue de sourds. La direction a refusé de nous commenter le fond des discussions et des revendications. Elle affirme avoir fait des propositions lors d'une réunion que les syndicats qualifient eux de stériles et a proposé un nouveau rendez-vous le 18 décembre prochain.
Merci Catherine Pétillon. En tout cas, ouverture du sommet sur le climat plus grève du RER, ça fait bouchon record en Île-de-France qui atteignait ce matin 550 km. Le temps encore instable sur le centre-est, retour du calme partout ailleurs. Température 2 à 15 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.